Catulle Mendès, le prix de la gloire. La lecture, dans la serre du château, s'acheva au milieu des applaudissements. Tout le monde convint qu'il n'y avait que M. de Marsillac pour imaginer d'aussi spirituels dialogues et pour tourner d'aussi galants rondeaux. Non, vraiment, les plus célèbres vaudevillistes n'aurait pas été capable d'écrire une pareille revue de l'année. Et il était bien heureux pour les auteurs de profession que M. de Marsillac eût 100 000 livres de rente, car s'il avait été obligé de travailler pour le théâtre, il aurait remporté à lui seul tous les succès. Mais ce qu'il y eut de surtout remarquable dans cet enthousiasme sans doute légitime, c'est que la plupart des mondaines qui devaient jouer dans la pièce se déclarèrent enchantés de leur rôle. Madame de Ruremonde, sûre d'elle-même, n'ayant rien à craindre de la sincérité des maillots, ne vit aucun inconvénient à se vêtir en femme silure. « Mes couplets du pavé de bois sont un peu vifs, dit la baronne de Lineige, mais ils sont si charmants. » Madame de Bellevélise consentit sans répugnance à la jupe courte de la commère. Imité baron dans ses imitations de Sarah Bernhardt, ne parut point déplaisant à la comtesse de Spérande. Et même la petite Hélène de Courtisolle, chose tout à fait imprévue, car la pruderie bien connue de cette veuve obstinée permettait de craindre des résistances, accepta, sans trop se faire prier, le rôle d'une essayeuse chez le couturier en vogue. De sorte que, Monsieur de Marsillac, en dépit de sa modestie, ne put se défendre d'un peu d'orgueilleuse satisfaction. Et, quelques instants plus tard, achevant de s'habiller pour le dîner, il regardait avec complaisance dans la glace de la cheminée la mine qu'il avait depuis qu'il était illustre. Mais quelle joie humaine tarde à être troublée! La porte s'ouvrit et se referma très vite. Madame de Rocas était là, le rose de la fâcherie aux joues, dans un remuement de jupes en colère. « Vous, Amédine, chez moi, en plein jour, quelle imprudence !»« Il s'agit bien de cela. Je ne me soucie guère d'être compromise ou non. Vraiment, ce qui arrive, c'est du joli. »«
Du joli ?»«
Ah oui, dans ma pièce, dit l'auteur. » « Croyez, Amédine, que je suis, on ne peut plus, flatté de votre approbation. »«
Qui vous parle de votre pièce ?
Voulez-vous savoir mon avis ? Elle est absurde, d'un bout à l'autre. »«
Madame !
Absurde, mais cela vous regarde. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ce qui m'occupe, c'est le rôle de l'essayeuse que vous avez donné à Hélène de Courtisolle. »«
Pensez-vous qu'elle le jouera mal ?
Je pense qu'elle ne le jouera pas du tout, à moins que vous ne soyez le plus ingrat des hommes.
Quoi, monsieur ?
Touché par un amour auquel j'ai eu la folie de croire, j'ai daigné avoir pour vous quelquefois des complaisances que ma conscience me reproche.
Et ce n'est pas à moi que vous confiez le meilleur rôle de votre revue ?
Oh, le meilleur ! Puis je vous l'ai offert, ce rôle, et vous n'en avez pas voulu.
Vous me l'avez offert, je n'en ai pas voulu. Ce sont là des choses dont je ne me souviens pas du tout.
Je vous assure.
Soit, c'est possible, mais c'est que le personnage, d'abord, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous devez avoir ajouté des couplets.
Pas un.
8 ou 10, enfin, peu importe. L'essayeuse, ce sera moi, ou bien il vous faudra perdre toute espérance de voir jamais se renouveler les faiblesses dont vous êtes, hélas, si peu reconnaissant. Cette menace ne manqua pas d'émouvoir M. de Marsillac. La face grasse, un peu rosée, un léger duvet brun au-dessus de la lèvre trop rouge, la jolie Madame de Rocas est de celles à qui, si leur conscience en effet s'alarme de quelques baisers, il est fort agréable de fournir des occasions de remords. Et c'était depuis 8 jours à peine qu'il lui donnait lieu de se repentir. Cruel, dit-il, vous me navrez. Mais considérez de grâce que vous demandez une chose impossible. Les rôles sont distribués, il n'y a plus à revenir là-dessus. Ah, si Madame de Courtisolles, comme je l'espérais peut-être, avait refusé le rôle. Vraiment, si elle l'avait refusé, vous me l'auriez confié? Vous n'en doutez pas, je pense. Et si elle n'en voulait plus à présent, vous me le donneriez? Avec quelle joie, chère Amédine! Madame de Rocasse, en frappant les mains, sauta sur ses petits pieds comme une enfant qui rit après avoir boudé. Alors, tout est pour le mieux, car j'ai trouvé un moyen, moi, de lui faire rendre le rôle. En vérité, vous m'étonnez. On renonce difficilement à jouer dans une pièce aussi... charmante, car elle est charmante, vous savez, votre revue. Si je disais le contraire tout à l'heure, c'est que j'étais furieuse. Asseyez-vous là, près de moi. Je ne suis plus méchante. Je vais vous expliquer mon plan. Vous n'ignorez pas que Madame de Courtisolles est une petite personne excessivement vertueuse, presque austère. À ce point que l'hiver dernier, elle ne donnait que des bals blancs pour ne pas être obligée de se décolleter. C'est là-dessus que nous allons fonder notre complot. Mais approchez donc. J'ai à vous dire des choses tellement singulières, si hardies, que je ne saurais parler tout haut et qu'il faut que votre oreille soit tout près de ma bouche. Il sentait sur son cou le frôlement d'un fin duvet de lèvres et le moyen de refuser un rôle à une femme qui joue si bien celui d'amoureuse et ne vous défend pas de lui donner la réplique. Pendant ce temps, Madame de Courtisolles était plongée dans d'étranges perplexités. Certes, elle avait toujours envié la gloire d'être applaudie par un public extasié. Elle savait bien qu'elle se montrerait très adroite comédienne et que devant la rampe, un peu de fard sur sa joue en ferait valoir un miracle la délicate pâleur. Mais d'un autre côté, c'était terrible de marcher sur une scène, d'être regardée par tant d'yeux à la fois. Que penserait-on d'elle? Ne hasardait-elle pas, par cette concession à la frivolité mondaine, la renommée si précieuse que lui avait si justement acquise la sévérité de ses principes? Une chose la rassérénait. Ce rôle de demoiselle de magasin n'exigeait aucune immodestie de toilette. Elle le jouerait en robe montante de couleur sombre. Et M. de Marsillac avait eu le bon goût de ne lui donner à dire aucune parole à double entente. Elle lui savait gré de cette réserve qui était une preuve d'estime. Oh, certainement, s'il avait fallu mettre une jupe courte ou montrer ses bras nus, si elle avait dû chanter un de ces rondeaux qui peuvent être mal interprétés, elle n'aurait pas consenti à jouer dans la revue de l'année. Comme elle songeait de la sorte, la femme de chambre annonça M. de Marsillac. Il eut, en entrant, un air de gravité qui permettait de présager un entretien important. À peine assis, « Madame, dit-il, je suis pris d'un scrupule. » « Et lequel, monsieur ? » demanda Hélène de Courtisolles, étonnée. « Si vous étiez une de ces personnes étourdies qui ne répugnent pas aux imprudences, je n'aurais qu'à vous remercier d'avoir bien voulu promettre à mon œuvre le concours du talent que vous ne pouvez manquer d'avoir. Mais je sais combien vous êtes jalouse d'offrir au monde l'exemple d'une irréprochable décence. Mon devoir, triomphant de mes intérêts d'auteur, m'ordonne de vous signaler le péril auquel vous expose votre dévouement. » Hélène de Courtisolles pensa tout de suite « Madame de Rocas veut me prendre mon rôle. » « Comme je vous suis obligé, monsieur, d'avoir eu ce scrupule, mais en vérité, mon éloignement des futilités à la mode ne va pas jusqu'à une pruderie de mauvais goût. D'ailleurs, le personnage que j'ai accepté de jouer n'a rien dont puisse s'alarmer la pudeur la plus délicate. » « Ah, comme vous vous trompez, madame. » « Le costume est aussi peu convenable que possible. » « Mais non, je vous ai bien entendu pendant la lecture. Une robe noire, col plat, manchette plate. » « Et je n'ai pas osé lire toutes les indications de scène. Au moment où les pensionnaires du lycée de filles viennent commander aux couturiers leur nouvel uniforme, l'essayeuse retire ses manchettes, son corsage et sa jupe aussi. Décidément, pensa Hélène de Courtisol, Madame de Rocas meurt d'envie de me remplacer. Voilà qui est effrayant, en effet. Mais enfin, je crois que je pourrais accommoder les exigences de la situation avec celles de la modestie. J'aurai soin, sous le premier corsage, d'en mettre un autre, d'étoffe épaisse, qui montera jusqu'au cou. Mais alors tout mon effet sera perdu. En a-t-elle envie de mon rôle, pensa Madame de Courtisol. Eh bien, monsieur, j'aurai les épaules nues. Vous voyez à quel sacrifice je me résigne. Que ne ferait-on point pour jouer dans une pièce aussi adorable que la vôtre ? Monsieur de Marsillac songeait avec inquiétude. Nous n'en viendrons pas facilement à bout. Hélas, madame, ce n'est pas dans le costume que se trouve le principal inconvénient. Vous vous rappelez la scène du second acte ? Fort bien, elle m'a paru tout à fait spirituelle et bienséante. Parce que je n'ai pas lu les indications de scène. L'essayeuse, dès l'arrivée du compère, se cache derrière un rideau avec le couturier. Le couturier, c'est moi-même. Et notez qu'elle n'a pas eu le temps de remettre son corsage ni sa jupe. Oui, mais le rideau la cache. Pas le moins du monde. Il est disposé de façon à laisser voir au public tout ce qui se passe dans le coin du théâtre. Et que s'y passe-t-il, mon Dieu ? Des choses épouvantables. Vous comprenez, il faut intéresser les spectateurs pendant le récit assez long du compère. Mais encore, quelle chose ? Combien je rougis d'avoir proposé un tel rôle à une personne telle que vous. À peine caché derrière le rideau avec l'essayeuse, sans corsage, le couturier, je vous l'ai dit, c'est moi. Profite de l'obligation où elle s'est mise de ne pas pousser un cri, de ne pas proférer une parole, pour lui prendre la taille et lui baiser les mains. Monsieur, pour lui caresser les épaules. Que me dites-vous là ? Pour la serrer dans ses bras. Fi, quelle horreur ! Pour la faire asseoir sur ses genoux. C'est abominable ! Pour regarder sous la jupe déjà si peu longue qu'il retrousse du doigt la couleur des bas de soie, des bois de soie à jour et celle de la jarretière. N'ajoutez pas un mot, s'écria Madame de Courtisol, rose d'effroi jusqu'au frisson des tempes. Monsieur de Marsillac s'était levé. Je savais bien que la seule énumération de ces jeux de scène suffirait à vous causer la plus juste épouvante. Il ne me reste plus qu'à m'excuser d'avoir pu espérer un seul instant que vous daigneriez, vous, madame. Et ne vous excusez pas, dit Hélène de Courtisol dans un éclat de rire. J'ai accepté de jouer votre pièce et telle qu'elle est, je la jouerai. Depuis toute une grande heure, Madame de Rocas guettait le retour de l'auteur. « Enfin, vous voilà, dit-elle. Eh bien ?»« Eh bien, je n'ai pas réussi. Elle garde le rôle. »«
Comment ? Malgré les changements que nous y avons faits ?»«
Oui. » »«
Malgré la nécessité de se déshabiller devant tout le monde ?»«
Oui. »
Malgré le jeu de scène derrière le rideau ?
Oui.
Elle veut bien qu'on lui prenne la taille, qu'on lui baise les mains ?
Oui.
Elle consent à se laisser toucher les épaules,
à être serrée dans vos bras ?
Oui. À vous montrer ses bras et sa jarretière sous la jupe retroussée ?
Elle consent à tout.
Madame de Rocas éprouvait une telle colère qu'elle se mordait les doigts avec ses dents de petite louve.
« Tant pis, s'écria-t-elle, il y aura un scandale. Puisqu'elle ne veut pas le rendre, vous lui retirerez le rôle, sans prétexte, avec éclat. »
« Malheureusement, chère Amédine, vous exigez là plus que je ne saurais faire. Les choses, à présent, sont trop avancées. »«
Trop avancées ?»
Et sans doute, dit Monsieur de Marsillac avec un certain embarras, nous avons répété